Alors, bonjour à tous et à toutes. On continue notre parcours de l'évangile de Marc. Vous savez, on le parcourt. Voilà, c'est je parcours le livre dans chapitre après chapitre. Et la dernière fois, on s'était arrêté à lorsque Jésus, lorsque Jésus avait... Alors le paralytique, c'était avant, et ensuite... Chapitre jusqu'au verset 7, c'était là où Jésus avait une forte opposition des pharisiens. Et... Voilà, il avait guéri l'homme à la main sèche, et ce qui avait un jour de sabbat, ce qui avait fortement révolté les pharisiens, les gens religieux. Il avait fait du bien un jour de sabbat, et même ça avait suffi à irriter les gens religieux, les pharisiens. Et puis donc, on continue là le parcours. Alors déjà, les pharisiens avaient déjà l'idée de tuer Jésus à ce moment-là, alors qu'il avait fait du bien. Et l'idée, ils ont accueilli cette idée de le tuer dès ce moment-là. Alors, les textes précédents, donc ce qu'on a vu jusqu'à présent, nous ont présenté Jésus comme celui qui chasse les démons, celui qui guérit les malades, celui qui accomplit des miracles, celui qui prêche la parole de Dieu, celui qui est toujours disponible pour aimer les gens, quels qu'ils soient, ceux, les juifs, ceux qui sont différents, les paralytiques, ceux qui sont les exclus de la société. Et Jésus donc a montré déjà qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il a accompli. Personne d'autre que lui ne pouvait accomplir ce qu'il a accompli. Et il a reçu toute autorité. Alors, peut-être ça vous est arrivé de parler de Jésus et d'avoir des réactions. Moi, tu sais, je m'en fiche. C'est toi, tu es bien dans ta religion. Voilà, je te laisse, mais moi, ça ne me concerne pas. Mais on ne sait pas ce que cette personne ensuite vivra chez elle. Et on va voir le texte qu'on va voir, donc la suite, Marc chapitre 3 à partir du verset 7, montre qu'il est... Jésus ne laisse personne indifférent. Jésus ne laisse personne indifférent. Même si la personne vous donne l'impression que vous ne l'avez pas, vous l'avez plutôt fatigué, non, Jésus ne laisse personne indifférent. Et Jésus suscite des réactions parfois complètement contradictoires, mais il suscite des réactions. Jésus ne laisse personne indifférent. C'est ce que je vous propose de voir dans le texte d'aujourd'hui, c'est dans Marc chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 35. Et je lirai. Et avant ça, je vais prier. Seigneur, je te remercie encore pour ta parole. Oui, tu nous l'as laissée. Nous voulons, Seigneur, nous tenir au pied du Maître. C'est toi le Maître, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, à tes pieds, recevoir tes instructions, comme nous l'a rappelé Morel par ta parole ce matin. Seigneur, je te prie de nous rendre attentifs. Nous voulons laisser dehors tout ce qui nous pèse, tout ce qui occupe notre esprit, tout ce qui ne sert à rien, pour être pleinement attentifs, Seigneur, à ce que tu veux nous dire, Seigneur. Merci. Merci de conduire ces instants. Je me repose entièrement en toi, en Jésus-Christ. Amen. Je lirai donc Marc chapitre 3 à partir du verset 7. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit, venue de Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il dit à ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il le recommandait avec beaucoup de sévérité de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il établit les 12, Simon, qu'il surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le surnom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre », André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Puis ils revinrent à la maison. Et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu le sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Belzébul est en lui, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'était parce qu'il disait « un esprit impur est en lui ». Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent ». Et il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Un texte avec beaucoup de réactions, complètement différentes les unes des autres, mais avec des réactions. Jésus ne laisse personne indifférent, qu'on le voit ou pas. Alors, je vous propose justement de voir, dans ce texte, si on devait résumer, simplifier, il y a ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui. Et c'est ce que je vous propose de voir. On va voir ceux qui croient en lui. Et là, il y a plusieurs sous-familles. Il y a ceux qui croient en lui un peu, il y a ceux qui croient en lui beaucoup, il y a ceux qui croient en lui passionnément. Et deuxièmement, nous verrons ceux qui ne croient pas du tout en lui. Et troisièmement, nous verrons ceux qui constituent la vraie famille de Jésus. Voilà pour vous situer le plan. Premièrement, eh bien, voyons ceux qui croient en Jésus, en commençant par ceux qui croient un peu en Jésus. Alors, Jésus se retire vers la mer de Galilée, après les incidents qui ont lieu précédemment avec les pharisiens, qui lui ont valu leur haine pour avoir guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et puis la renommée de Jésus, elle commence à se répandre, après tous ces miracles, toutes ces guérisons. Elle s'est répandue, et des foules nombreuses viennent d'un peu partout, de Galilée, et même de plus loin. Et il y a même non seulement des juifs, mais des païens, des non-juifs qui viennent à lui. Et ça, c'est nouveau, des non-juifs qui viennent à lui. En tout cas, il y a des gens qui viennent quasiment de toute la Palestine. Jésus les accueille. Et il les accueille tous. Jésus se rend disponible pour tous. Évidemment, la renommée de Jésus s'est accrue et beaucoup ont entendu que Jésus était capable de guérir les malades. Alors évidemment, eh bien, tous les malades, tous ceux qui ont une maladie qui les font souffrir, hein, le mot malade, c'est vraiment, ça évoque une maladie qui est pénible, qui fait souffrir. Beaucoup viennent à lui pour se faire guérir de ces maladies, des maladies physiques. Et vous avez remarqué, le texte nous dit que les gens se jetaient même sur lui. Ils allaient jusqu'à se jeter sur lui. Et ils l'écrasaient presque pour le toucher. Et ça nous rappelle quand même d'autres choses. Ça ressemblait beaucoup à de la superstition. De la superstition qu'on trouve encore aujourd'hui dans certaines religions. Par exemple, eh bien, il y a des gens qui veulent absolument toucher le pape quand il passe par chez eux. Donc c'est pas nouveau. Certains veulent le toucher pour être bénis. Et certains voulaient le toucher Jésus pour être guéri. Alors, que fait Jésus? C'est pas des conditions idéales pour prêcher. Il va demander à ses disciples de lui trouver une barque. Qu'on lui mette à disposition une barque. Pourquoi? Eh bien, pour mettre de la distance entre lui et la foule. Pourquoi il demande cette barque? Parce qu'il n'est pas seulement venu pour guérir les malades. Puis il est limité, il a un seul corps. Il veut mettre de la distance entre lui et la foule pour pouvoir mieux les enseigner. Les enseigner pour pouvoir mieux leur prêcher la parole de Dieu. Sa mission première, prêcher le royaume de Dieu. Il veut les enseigner. Et on l'imagine mal enseigner dans des conditions où il est pressé par la foule. Alors en s'éloignant du rivage, c'était une idée géniale, puisqu'effectivement l'eau va lui servir de porte-voix en même temps. Et il va pouvoir prêcher. Alors certains, oui, ne venaient pas pour écouter Jésus, mais simplement, je veux dire simplement pour être guéris. C'était un besoin très important chez eux, ce qui se comprend, ils souffraient, c'était des gens qui souffraient. Ils venaient pour être guéris, mais ils ne venaient pas pour l'écouter à la base. C'est légitime de vouloir être guéri. Et ces gens qui venaient pour être guéris, ils ont montré une certaine foi en Jésus. Ils avaient la foi, mais on peut dire un peu de foi. Parce que en se jetant sur lui quand même, pour le toucher, ils pensaient plus à eux qu'à Jésus. Et il montrait une foi qui était balbutiante. Une foi, une petite foi que Jésus ne condamne pas. Alors, d'après ce passage, certains croyaient bien en Jésus, mais un peu. Avec la foi d'un moment, en voyant les miracles de Jésus. La foi d'un moment. Le temps de répondre à leur besoin immédiat, celui d'être guéri de leur maladie. Voilà. Un peu de foi. Et puis ensuite, si on suit le texte, hein, il y a ceux qui croient beaucoup en Jésus. Et là, il ne s'agit pas d'humains. Il s'agit de démons. Oui, vous avez bien entendu. Les démons, ils croient en Jésus. Et ils croient beaucoup en Jésus. Ce que redit l'apôtre Jacques, en Jacques 2, 19, voici ce que dit Jacques. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Et c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Dans notre texte, que font les démons à l'approche de Jésus? Ils se prosternent à ses pieds. Ils confessent qu'il est bien le Fils de Dieu, qui a donc reçu toute autorité. Et ils montrent qu'ils le craignent. Et ils montrent que Jésus est plus fort qu'eux. Ils montrent que Jésus est plus fort qu'eux. Pourquoi on peut dire qu'ils croient beaucoup en Jésus? Eh bien, tout simplement parce qu'ils le connaissaient avant. Ils croient beaucoup en Jésus parce que c'est plus facile de croire à quelqu'un qu'on a vu, qu'on connaît. Et pour cause, les démons connaissaient déjà Jésus dans le monde spirituel. Jésus existait avant de s'incarner, n'est-ce pas? Il est le Fils de Dieu éternel. Et les démons l'ont tout de suite reconnu, quand ils l'ont vu. Et Jésus leur interdit pour la troisième fois de divulguer son identité, pour ne pas nuire à son ministère. Et oui, effectivement, à qui revient le rôle de témoigner? C'est pas aux démons, c'est à nous, l'Église, de témoigner de Jésus. Et Jésus donc montre qu'il a autorité sur les démons, il est plus fort qu'eux. Et son autorité, eh bien, il va la transmettre à des hommes qui vont croire en lui, et cette fois, pas un peu, pas beaucoup, mais passionnément. Il s'agit des apôtres, des 12. Certains des 12 qui vont croire en lui, les apôtres. Voyons donc ceux qui croiront en Jésus passionnément. Nous sommes là, nous assistons donc, Jésus va choisir ses apôtres, les 12. Il avait déjà des disciples, mais là c'est spécial. Il va en choisir 12, on va voir pourquoi. Et nous savons, d'après le passage parallèle en Luc 6, 12, que Jésus a prié toute la nuit sur la montagne avant de choisir ses disciples, ses apôtres, appelés les 12. Alors, selon quels critères Jésus les a-t-il choisis? Selon quels critères? Pas selon les nôtres. Pas selon les critères humains. Parce qu'un chef d'entreprise, il aurait certainement recalé les 12. D'après leur curriculum vitae, ils n'en auraient pris aucun. Certains ne savaient pas lire, étaient illettrés et... Le texte nous dit simplement que Jésus établit ce qu'il a voulu, lui, ce que lui a voulu. Pas d'après leurs critères, mais ce que lui a... Parce que lui, il l'a voulu. Il établit ce qu'il a voulu. Et le verbe vouloir, ça, il évoque l'idée aussi de prendre plaisir à... Jésus veut prendre plaisir en ce qu'il a choisi. Alors les apôtres, ils étaient issus de milieux très différents. Hein, on a vu déjà précédemment qu'il a, voilà, il avait déjà choisi Pierre, Simon en tout cas qu'il va surnommer Pierre, et son frère André. Mais Jésus en tout cas, il a choisi des personnes issues de milieux très différents. Par exemple, il a osé prendre dans son équipe un nationaliste zélote, Simon le Cananite, c'est Simon le Zélote aussi appelé dans d'autres évangiles. Il a osé prendre dans son équipe à la fois un nationaliste qui voulait chasser les Romains et un traître, ou considéré comme tel, Matthieu, celui qui appelait Lévi. Dans la même équipe, un nationaliste et un traître. Un traître à la solde des Romains, le péager Matthieu. Ces apôtres, c'était pas des gens religieux. C'était des gens on ne peut plus ordinaires. Et pourtant, ils ont bouleversé le monde. C'était pas des gens religieux. C'est par la suite que celui qui est devenu, qui se dit lui-même le moindre des apôtres, et qui a rejoint, on peut dire, l'équipe, c'était l'apôtre Paul. Lui, c'était un pharisien, zélé dans la loi. Lui, c'était un religieux. Quant aux autres, on n'avait pas dit qu'ils étaient religieux, que c'était versé dans la loi. Pourquoi Jésus les établit-il? Pour quelle raison Jésus a établi ce qu'il a voulu? Eh bien, le texte, pour un triple objectif. Premièrement, la raison première, c'est pas de les envoyer. La raison première, Jésus a établi ses apôtres pour être avec lui. Pour être avec lui. Et le texte qu'a choisi Morel ce matin nous rappelle cette importance de d'abord être avec Jésus, versé dans sa parole. Être avec Jésus en chair. Les 12, effectivement, ils ont connu Jésus en chair. Ils sont différents des autres disciples. Ils sont à distinguer des autres disciples dont certains suivaient déjà Jésus. Et effectivement, les apôtres et les 12, ils ont suivi Jésus pendant son ministère qui a duré 3 ans. Et pendant ces 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été à l'école, à la meilleure école qui soit. Ils étaient avec leur maître. Ils ont bénéficié d'une formation de 3 ans en direct avec le maître, mieux qu'en visio. Il n'y avait pas de vision conférence à l'époque. Ils ont donc été formés à l'école de Jésus pendant 3 ans. Ce n'est qu'après que Jésus les a envoyés. Apôtre veut dire envoyé. Jésus les a envoyés quoi faire? Il les a envoyés, deuxième et troisième objectif. Premier, c'est d'être avec lui. Deuxième, c'est de prêcher sa parole. Et troisième, de chasser les démons. Ça veut dire que Jésus leur a conféré son autorité. Il leur a transféré son autorité. Alors, à l'époque, la Bible, elle n'était pas terminée comme on l'a aujourd'hui. Et en leur transférant son autorité, Jésus voulait donner à la parole qu'ils auront la même autorité qu'à sa parole. À l'époque, la Bible n'était pas terminée. Et en leur donnant le pouvoir de chasser les démons, Jésus donnait à leur parole sa propre autorité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Nous avons toute la parole. La parole, elle est achevée. Nous avons tout le canon de l'Écriture. Et elle devrait nous suffire pour croire, pour y croire. Les miracles ne sont pas indispensables. Même si il est possible pour n'importe quel chrétien, je crois, de chasser des démons au nom de Jésus. Prendre autorité sur le diable. Alors, Jésus a appelé ses apôtres. Et comment ont-ils répondu? Ils ont répondu. Ils ont répondu de leur plein gré, sans discuter. Ils ont répondu de leur plein gré à l'appel de leur maître. Le verset 13 nous dit simplement, ils vinrent à lui. Sans demander pourquoi, sans demander est-ce que ça paye bien, sans demander s'il y a des congés payés, sans demander où est-ce que ça les mènerait. Ils connaissaient très peu Jésus, ils ne connaissaient même pas. Mais ils ont eu une attirance irrésistible pour lui. Pourquoi? Simplement parce que Jésus les a appelés pour être avec lui. Simplement parce que Jésus les a établis, a établi ce qu'il a voulu. selon son bon plaisir et non le leur. Et eux, eh bien, ils n'ont fait que répondre avec foi et avec espérance. Alors pour nous, eh bien pour nous, ces apôtres sont un exemple. C'est aussi un encouragement pour nous à nous engager nous aussi à la suite de Jésus. Mais pour cela, si tu veux faire quelque chose pour Jésus, il faut d'abord être au pied du Maître. Il faut d'abord être avec Jésus, être avec lui, passer du temps avec lui, comme il a été dit ce matin, et recevoir personnellement ses instructions. C'est la condition indispensable avant d'être envoyé, en vue d'un service pour lui. Vous avez vu, les 12, ils sont appelés par leur nom, contrairement à la foule. La foule, c'est la foule. Mais les 12, Jésus les nomme individuellement par leur nom. Il te connaît aussi personnellement par ton nom. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est de par leur travail. Eux, des gens tout à fait ordinaires, mais qui avaient la puissance de Jésus. Eux, des hommes qui étaient ordinaires. Eh bien, Jésus te connaît aussi personnellement. Et personne ne sait jusqu'où le Seigneur peut se servir de quelqu'un d'ordinaire, comme toi. Voici ce qu'il dit, ce que Jésus dit en Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » C'est valable non seulement pour les apôtres, ce que dit Jésus, mais c'est valable aussi pour tout chrétien. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi et qui nous a établi pour que nous allions, pour porter du fruit et que notre fruit demeure. Et que ce qu'on demande au Père, en son nom, il nous le donne. Nous avons donc la liste des 12. Et dans les passages parallèles, dans les évangiles parallèles, on retrouve aussi, avec à quelques variantes près, donc la liste des 12 apôtres. Mais en tout cas, on retrouve toujours Judas, à la fin, le dernier de la liste, celui qui a trahi Jésus. C'est étonnant quand même. C'est Jésus qui a établi, qui a choisi les apôtres. C'est Jésus qui a choisi Judas. Il a choisi Judas. Pourquoi ? Parce que la trahison de Judas rentrait aussi dans le plan souverain de Dieu. Dieu reste souverain. Judas a accompli le plan de Dieu, du Dieu éternel, sans le savoir. Dieu reste souverain. Et les 11 autres qui sont restés fidèles au Seigneur, eh bien, eux, ils ont aimé et crut Jésus passionnément, pas un peu, pas beaucoup, mais passionnément, jusqu'à mourir en martyr pour certains, pour être emprisonné pour d'autres. Il y a donc ceux qui aiment Jésus un peu, ceux qui aiment Jésus beaucoup, ceux qui aiment Jésus passionnément, et puis il y en a qui n'aiment pas du tout Jésus. C'est ce que nous allons voir, mon deuxième point, ceux qui ne croient pas du tout en Jésus. Je précise, je nuance, ceux qui ne croient pas du tout en Jésus, ça ne veut pas dire que tous ne l'aiment pas. Je vais y venir. Ceux qui ne croient pas du tout en Jésus. Suite du récit, donc, eh bien, Jésus revient à la maison. Jésus recommence à enseigner la foule, nous est-il dit. Toujours disponible. Ils se laissent déranger. Ils prennent même pas le temps de manger, lui et ses disciples. Et un tel zèle pour Dieu va le faire passer pour un fanatique religieux, aux yeux de qui ? De sa propre parenté. De sa propre parenté. Aussi étonnant que cela puisse paraître, eh bien, parmi ceux qui n'ont pas cru en lui, figurent ses frères et sa mère. Étonnant. Sa propre parenté. Jésus n'est plus un enfant. Pourtant, que font-ils ? Eh bien, ils cherchent à se saisir de lui comme un enfant. Ça partait peut-être d'un bon sentiment. Peut-être ils voulaient le mettre à l'abri d'un surmenage, le mettre à l'abri des foules. N'empêche que, ils ont dit de lui qu'il est hors de sens, Il a perdu le sens. Il est fou. C'est ce qu'ils ont dit, littéralement. Sa propre famille. Est-ce que vous avez déjà été taxé de fou à cause de votre foi en Jésus? Je ne sais pas si vous êtes né dans une famille chrétienne. Ceux qui ne sont pas chrétiens dans votre famille ne vous comprennent pas. Vous ne vous sentez pas compris par ceux de votre famille. Peut-être lorsque vous avez voulu lire une méditation à l'occasion de Noël, et vous avez été peut-être violemment rejeté. Ou lorsque vous avez voulu citer des versets bibliques, vous n'avez pas été compris, vous n'avez pas été reçu. Ou peut-être un jeune, une jeune, qui veut suivre Jésus, et à qui on dit, mais tu es en train de passer à côté de la vie, là. Tu es en train de passer à côté des plaisirs de la vie. De ta jeunesse, tu es en train de gâcher ta jeunesse. Peut-être certains l'ont déjà entendu, alors que c'est tout le contraire d'être avec Jésus. Et puis, est-ce que vous vous êtes senti incompris? Est-ce que vous vous êtes senti mis à l'écart, rejeté? Eh bien, ça fait mal quand c'est dans sa propre famille, n'est-ce pas? Ça fait mal. Même si on est chrétien, ça fait mal. Quand ce sont les gens de votre propre famille qui vous traitent de fou. Et ne croyons pas que parce que nos parents nous ont élevés, ils nous comprennent et ils nous connaissent si bien que ça, si nous sommes chrétiens et pas eux. Pareil pour les enfants. Si vous êtes chrétien, chrétienne, et que vos enfants n'ont pas donné leur cœur à Jésus, ne croyez pas qu'ils vous connaissent si bien que ça, même si vous êtes la maman, même si vous êtes le papa. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes de nouvelles créations. Alors, extérieurement, ça ne se voit peut-être pas, mais à l'intérieur, Jésus a commencé une opération de transformation qui ne terminera que lorsque nous quitterons cette terre. Il a commencé une transformation à l'intérieur de vous. Vous ressemblez de plus en plus à Jésus. Ce qu'il veut. Et Jésus ne laisse personne indifférent, comme nous l'apprend ce texte. Ça concerne aussi vos proches. Soit vos proches se sentiront attirés vers vous, soit ils vous fuiront. Et dans ce cas-là, ce n'est pas vous qu'ils rejettent, mais c'est Jésus. Donc le Seigneur Jésus nous comprend, vous comprend, lorsque vous êtes taxé peut-être d'original, peut-être de fou, parce que lui-même, il a été taxé de fou par sa propre famille, sa propre parenté. Et il y a quand même de quoi être étonné, parce que même Marie, elle est citée un peu plus loin, elle est la mère de Jésus qui l'a porté, Jésus qui est né du Saint-Esprit, hein. Il y a de quoi être étonné parce que Marie avait pourtant reçu des révélations extraordinaires, surnaturelles, de par l'ange Gabriel, quand elle allait devenir enceinte de Jésus par le Saint-Esprit. Dieu lui avait parlé par l'ange Gabriel. Elle savait qu'elle allait donner naissance au Fils de Dieu. Voici ce que l'ange lui avait dit en Luc 1, 32. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Marie, elle avait entendu ces choses-là. Et pourtant là, elle montre qu'elle ne croyait pas encore en lui, je précise. Encore en lui. Parce qu'il y a de l'espoir. Et on l'a vu à la rencontre autour de la Bible, avec Eric qui nous a parlé des différentes Maries dans la Bible. Oui, nous a rappelé que Marie et les frères de Jésus ont fini par croire en Jésus. Mais bien plus tard, après que Jésus soit ressuscité et remonté au ciel. Et c'est ce passage dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 14, qui nous le dit. Je vous le lis, acte 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, dans le livre des Actes, après que Jésus soit remonté au ciel. Marie est citée et les frères de Jésus aussi. Là, ils ont cru, ils sont devenus croyants, ils sont devenus chrétiens. Mais à ce moment-là, de notre texte, ce n'était pas encore le cas. Il ne croyait pas, étant de sa propre parenté. Marie et les frères de Jésus sont passés de la famille terrestre de Jésus à la famille spirituelle de Jésus. Alors si elle, Si elle, Marie, elle a mis du temps avant de croire en son fils, malgré les révélations extraordinaires qui lui ont été faites par l'ange, à plus forte raison, ne nous étonnons pas. Ne nous étonnons pas quand quelqu'un de nos familles ne croit pas en Jésus, et si ça met du temps avant qu'il ne croit. Mais rappelons-nous, nous avons plus qu'eux. Si parfois vous avez mal, vous vous êtes senti rejeté par votre famille, disons-nous que nous avons plus qu'eux, nous avons le Seigneur. Et ils ont besoin du Seigneur. Et c'est à nous de continuer de prier pour eux. D'être des témoins par nos vies et par nos paroles. Ils ont besoin du Seigneur. Nous avons plus qu'eux, nous avons le Seigneur. La parenté de Jésus disait qu'il était hors de lui. Donc ce mot veut dire fou, ça veut dire aussi hors de lui. Et il n'avait pas tort, Jésus. Alors dans cette traduction-là, je précise, il n'avait pas tort. Jésus était hors de lui dans le sens que il était pas centré sur lui. Il était orienté vers les autres. Tourné vers les autres, il n'était pas tourné vers lui. Dans ce sens-là, oui, ils avaient raison, il était hors de lui. Il était bien hors de lui pour s'occuper des autres. La folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse des hommes. La vraie folie, ça serait de rester insensible aux besoins de ceux du dehors, qui se perdent sans jamais avoir entendu l'évangile. Ça serait d'être insensible quand on entend des maltraitances d'enfants qui sont si courants aujourd'hui, dans les familles même. Alors, n'ayons pas peur d'être hors de nous-mêmes, si c'est pour être centré vers les autres, comme Jésus. Alors, sa famille ne croyait pas en lui, mais pas seulement. Il y avait aussi les scribes, ceux qui recopiaient la loi, l'écriture, qui la connaissaient. Ils ne croyaient pas en lui et ils ne croyaient pas du tout en lui. Ils ne croyaient pas du tout en lui, les scribes. Ce n'est pas la même incrédulité que celle de la famille. Alors c'est une chose de nier la divinité de Jésus. C'était le problème de la parenté de Jésus à ce moment-là. Mais c'en est une autre, d'attribuer les pouvoirs de Jésus à Satan. Ça tient du blasphème. Les scribes prétendaient que si Jésus chasse les démons, c'est par la puissance du prince des démons, Belzéboul, qui n'est autre que Satan. Belzéboul, le nom veut dire seigneur des mouches. Ça veut dire seigneur de la saleté. C'est une insulte blasphématoire et volontairement appliquée à Jésus. Jésus qui répond, comment Satan peut-il chasser Satan? Si Jésus chassait les démons au nom du prince des démons, alors ça voudrait dire que Satan travaillerait contre lui-même. Alors que Satan veut faire des hommes, des femmes, ses esclaves. Ça ne tient pas debout. Alors Jésus nous apprend qu'il faut d'abord lier l'homme fort qui n'est autre que Satan. Et effectivement, Satan sera lié complètement lorsque Jésus reviendra. Pour le moment, et on le voit, hein, pas besoin d'aller loin, il suffit d'allumer la télé, il agit encore, avec toutes les atrocités qu'on entend. Il agit encore, mais son pouvoir est limité. Il est limité, parce que Jésus a montré qu'il était le plus fort. Quand est-ce que Jésus a montré qu'il est plus fort que Satan? Quand il est ressuscité. Par sa mort à la croix et par sa résurrection, Jésus a obtenu le pardon pour quiconque croit en lui et se repent de ses péchés. En ressuscitant, Jésus a montré qu'il était plus fort que Satan, qui pensait se débarrasser de lui à la croix, alors qu'en fait, tout se passait selon le plan de Dieu. Mais si on ne se repent pas de ses péchés, eh bien, on donne à Satan l'occasion de nous accuser. Jésus était sans aucun péché. Aucun péché que Satan puisse recenser. C'est pourquoi Satan n'avait aucun pouvoir sur lui. Il ne pouvait pas l'accuser. Voilà la bonne nouvelle. Lorsque je suis en Christ, Satan perd le pouvoir de me condamner. Lorsque je suis en Christ, Satan perd le pouvoir de me condamner. Jésus a montré, il est venu apporter la grâce par son sacrifice à la croix, en faisant, pas seulement en disant, il a montré que la grâce, elle est plus forte que la condamnation de la loi qui nous avait tous atteints. Nous sommes tous pécheurs, nous étions tous condamnés. Mais il a montré que la grâce est plus forte que la condamnation de la loi. La Bible utilise même l'expression « le règne de la grâce ». Le règne de la grâce est plus puissant que le règne du péché qui excite la loi, excité par la loi, pardon. Blasphème veut dire insulte, avec sa bouche. Le blasphème contre le Saint-Esprit est une insulte faite à Dieu, en attribuant à Satan les œuvres de Jésus qui, lui, est rempli de l'Esprit-Saint. Tout péché sera pardonné, dit Jésus. Même tout blasphème, blasphème pas adressé à Dieu. Insulte pas adressée à Dieu. Mais le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit, celui-là, il sera pas. C'est un péché éternel, il ne sera pas pardonné. Pourquoi ? Pourquoi ce péché ne peut pas être pardonné ? Parce que rejeter à ce point Jésus mort pour nos péchés, pour nous pardonner, c'est rejeter le seul moyen d'être pardonné. Rejeter celui qui nous pardonne, c'est rejeter le seul moyen d'être pardonné. Et c'est s'envoyer soi-même en enfer, en rejetant Jésus. Jésus est venu pour nous pardonner, pour nous sauver de l'enfer. Le rejeter, c'est se jeter en enfer. Le rejeter par le blasphème. En prétendant que ce qu'il fait, c'est Satan qui lui donne ce pouvoir. Ce péché, il avait cours chez les scribes qui étaient pourtant versés dans les Écritures, ils connaissaient les Écritures. Pourtant, les scribes avaient été témoins des miracles de Jésus. Jésus qui était présent en chair à l'époque, ils avaient toutes les évidences pour croire en lui. Pourtant, ils n'ont pas cru en lui, non seulement ils n'ont pas cru en lui, mais ils ont attribué ses pouvoirs à Satan. Ils niaient l'évidence parce qu'ils étaient par haine et par jalousie, étant jaloux de Jésus. Et il faut bien faire la différence. Eux, ils refusaient de croire, mais de façon délibérée, de façon persistante, de façon calculée. Ils refusaient de croire, ce qui les a amenés au blasphème contre Jésus. Et là, il faut bien faire la différence. Il faut bien différencier l'attitude des scribes à l'époque d'autres personnes qui ont parlé par ignorance contre Dieu, qui ne connaissaient pas encore Jésus, ils avaient leur propre idée sur Jésus parce qu'ils avaient entendu des choses qui avaient été déformées sur lui et cette, une parole contre Dieu leur est sortie. Mais là, on n'est pas dans le même cas. On n'est pas dans le cas de gens religieux qui sont contre Jésus. Il faut bien différencier donc ces personnes, les scribes à l'époque de Jésus, de celles qui ont parlé par ignorance contre Dieu. Ou sous le coup de la colère. Des personnes, qu'elles soient chrétiennes ou pas, peut-être même ça vous est arrivé. Et c'est sorti de votre bouche dans une déclaration isolée. Alors peut-être vous vous inquiétez. Est-ce que vous allez être pardonné de ce péché-là ? Est-ce que vous avez commis ce péché impardonnable par le passé ? Eh bien déjà, une bonne nouvelle, c'est que si vous vous en inquiétez, c'est bon signe. Et c'est même la preuve que vous ne l'avez pas commis, si vous vous inquiétez d'avoir dit ça. Et si vous vous souvenez que vous avez une parole contre Dieu, eh bien repentez-vous. Et voici ce que dit la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. On n'est pas dans le même cas des scribes religieux qui savaient, qui calculaient leur opposition à Jésus, d'une parole de quelqu'un qui est sorti par, sous le coup de la colère, irréfléchi. Alors que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, après avoir essayé de se saisir de Jésus, eh bien, la mère de Jésus et ses frères rentrent à nouveau en scène. Ils cherchent à le voir. Alors vous imaginez la scène. Jésus, il est dans la maison, la foule est avec lui, mais eux, ils sont restés dehors. Ils sont restés dehors à cause de la foule. Et ils cherchent à le voir, ce qu'on rapporte à Jésus. Et à ce moment précis, il n'est pas dit que Jésus va les faire entrer ou les a fait rentrer. Il n'est pas dit ça. Ils sont restés dehors à ce moment précis. Et ça se comprend que Jésus ne les a pas fait rentrer tout de suite. Pourquoi ? Parce que s'il les avait fait rentrer, eh bien, il leur aurait donné raison quand ils ont essayé de se saisir de lui. Il leur aurait donné raison lorsqu'ils ont dit de lui qu'il était fou. Dans ce cas-là, Jésus ne s'est pas soumis à eux. Et ça montre bien que Jésus est au-dessus de sa mère. C'est pas le contraire. L'attitude de Jésus montre bien que Marie n'est pas au-dessus de Jésus, alors qu'elle est idolâtrée dans certains milieux et bien sûr dans l'Église catholique. Ce point-là donc va à l'encontre de cette croyance. Marie n'est pas au-dessus de Jésus, elle n'est pas au-dessus de Dieu. Et puis ce passage nous montre aussi que Jésus a eu des frères et des sœurs, mais après sa naissance virginale. Lui, il est né de la Vierge et du Saint-Esprit, de la Vierge Marie et du Saint-Esprit. Et ensuite, eh bien, Marie a eu des rapports avec son mari, Joseph. Il a eu des frères et des sœurs. Voyons maintenant mon troisième point. Eh bien, Jésus va préciser qui sont sa vraie famille, la famille de Jésus. Alors ici, il est encore question de la foule. Mais ce n'est pas ceux qui se sont jetés sur lui pour le toucher, pour être guéri. Là, il est question de ceux qui ont choisi de prendre le temps de s'asseoir autour de lui. Vous imaginez la scène ? Tout est calme. Jésus enseigne, il y a la foule, oui cette fois, mais pas qui se jette sur lui, la foule qui l'écoute. Aujourd'hui, il n'y a plus le problème de chercher à toucher Jésus physiquement. Jésus était limité physiquement à l'époque. Il s'était volontairement limité, lui, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, Jésus n'est plus limité physiquement. N'importe qui, n'importe où peut croire en lui et l'accepter comme son Seigneur et comme son Sauveur. Et si vous ne l'avez pas fait, Dieu vous invite à le faire, à accepter, à croire en son Fils, comme son Seigneur et comme son Sauveur. Qui est la famille de Jésus ? Sa mère, son frère, sa sœur, eh bien, Jésus dit, ce sont tous ceux qui font la parole de Dieu. Sa mère, son frère, sa sœur sont tous ceux qui croient en lui, pas avec la foi d'un moment, un peu de foi, même si Jésus prend en compte un peu de foi. Sa mère, son frère, sa sœur sont tous ceux qui croient en lui, pas avec une foi d'un moment pour les besoins immédiats, mais avec une foi qui va s'attacher à lui, au point de s'asseoir pour l'écouter et vouloir faire la volonté de Dieu. On est bien dans deux cas différents là. C'est pas juste le toucher et puis je repars. Non, c'est ceux qui font le choix de s'asseoir autour de lui pour l'écouter, qui veulent faire comprendre, entendre la volonté de Dieu, la comprendre et la faire. Et sans mépriser sa mère, Jésus met les bonnes priorités. Il place la volonté de Dieu avant les liens naturels, créant des liens plus forts que les liens naturels, les liens familiaux. Il va créer des liens spirituels entre des personnes qui vont devenir frères et sœurs, qui vont devenir sa famille et qui n'est rien d'autre que l'Église. L'Église, où les liens sont plus forts que la famille charnelle, la famille terrestre. Alors oui, ce passage, c'est une exhortation à rechercher l'unité, non seulement dans notre famille terrestre, mais aussi dans l'Église. La vraie foi, elle fait plus que guérir. Elle sauve. Elle est celle qui s'attache à Christ et qui nous fait rentrer dans la famille de Dieu. Peut-être vous vous inquiétez pour vos familles, vos enfants, vos parents qui ne sont pas chrétiens. Pas de souci. Jésus les aime mieux que vous. Vous, nous, notre rôle, c'est de continuer à prier pour eux. Jésus aime nos familles naturelles plus que nous. Jésus a appelé 12 apôtres, mais l'appel à rentrer dans sa famille s'adresse à tous. Et pas seulement les apôtres, mais tout croyant est invité à se mettre aux pieds de Jésus pour être son disciple, pour recevoir sa parole, ça commence comme ça, pour recevoir ses instructions et pour être envoyé par le Maître. Alors, je termine. Crois-tu en Jésus? Un peu? Ou beaucoup? Ou passionnément? Es-tu une mère? Ou un frère? Ou une sœur pour Jésus? Eh bien, tu peux répondre oui si tu crois en lui et si tu veux, si tu fais la volonté de Dieu. Amen, je vais prier. Oui Seigneur, merci parce que tu as voulu faire de nous ta famille, Seigneur. Tu as voulu faire de nous ta famille. Et tu prends plaisir à ce que nous nous asseyions à tes pieds, à ce que nous t'écoutions pour recevoir tes instructions. Et pour les faire, Seigneur, pour faire ta volonté. Merci Seigneur parce que tu n'as pas rejeté ceux qui se sont jetés sur toi pour être guéris. Seigneur, et tu veux qu'on te connaisse, Seigneur. Et c'est vrai que tu as accompli des miracles, tu as montré que tu es le Fils de Dieu, tu as donné ta vie pour nous tous à la croix, tu es ressuscité. Tu es plus fort que Satan, Seigneur, tu l'as montré. Et nous n'avons pas à le craindre. Alors Seigneur, je te prie que nous soyons, eh bien Seigneur, comme Jésus. Seigneur, que nous nous comportions en tant qu'enfant de Dieu que tu as fait de nous, qui croyons en toi. Et si quelques-uns ou quelqu'un n'a pas encore fait la paix avec toi en Jésus, Père, je prie que tu lui parles encore et que, Seigneur, qu'il ou elle se mette devant toi, Seigneur. Merci pour... Merci, Seigneur, de nous accorder ton amour, ton pardon, ta paix, en toutes circonstances. Indépendamment des circonstances, Seigneur. Alors, donne-nous de regarder à toi, Seigneur, même si les choses vont mal dans ce monde. Toi, tu es fidèle. Ta parole, elle est éternelle. Et si quelqu'un a eu une parole contre toi, Seigneur, sous le coup de la colère, eh bien oui, Seigneur, et qu'il le regrette, eh bien, Seigneur, oui, pardonne. Pardonne, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.